d'horizon avec Jonathan Trudeau.
Monsieur Jonathan Trudeau, bon matin.
Salut!
Hey, on va avoir un petit peu de positif ce matin pour le monde.
Ben oui, je veux prendre le temps, parce qu'on a tellement galvaudé, scrappé l'expression « ça va bien aller » qu'on pourrait se dire « ça va mieux ». Ça, je pense qu'on a le droit de se le dire. Puis, écoute,
c'est très le fun, ça va mieux.
Ouais. Ben, je pense qu'on peut se le dire, Martin. Je me souhaite cette réflexion-là en fin de semaine en perdant, encore une fois, beaucoup trop de temps à regarder des vidéos de complotistes. c'est ridicule.
Hey, t'es long, week-end,
c'est avec les vidéos. Il y en a qui c'est avec des vidéos de chats et des vidéos de chiens qui font ça. Tu sais, quand une vidéo te mène à une autre vidéo, à une autre vidéo...
Moi, ce qui,
tu te rends compte, ça fait une heure et demie que tu perds, là.
Moi, ce qui me fait capoter, c'est à quel point ils ont du temps pour se filmer en char. Hein. C'est fou, hein?
En char ou en errant devant leur maison, en marchant aussi, ou sur le patio. Il y a comme des règles de base, je sais pas. Mais bref, j'en écoutais un, puis je le nommerai certainement pas pour pas y donner plus de visibilité qu'il en a. Mais c'était au lendemain de l'annonce de la vaccination obligatoire pour les employés du gouvernement fédéral. Et pour de vrai, il était sur le bord de littéralement s'arracher les cheveux sur la tête. C'était l'appel à la révolution, puis rayez-vous, puis faut crisser notre camp du Québec. Puis tu sais, dans sa tête, dans son raisonnement et dans le raisonnement de bien d'autres de ces gens-là, la situation ne fait qu'empirer, on dirait, tu sais. Et là, j'ai envie de faire un petit tour d'horizon parce qu'il y a des trucs inquiétants aussi dont on va parler, mais j'ai envie de faire un petit tour d'horizon de ce qu'il y a de positif, d'emballant, j'ai envie de dire. Parce que là, ce matin, on nous a confirmé que, dans la presse, ça devrait être annoncé sous peu, la frontière terrestre Canada-États-Unis devrait rouvrir au mois de novembre. Donc, bonne nouvelle, s'il y en a qui veulent aller voir, je pense à mon ami Jérôme Landry, il va vouloir aller voir une game des Pats à Foxborough, il va pouvoir y aller en passant par les douanes terrestres.
Ah, j'en connais une, moi, qui m'a déjà texté ce matin. « Hey, New York à Noël avec des yeux pleins de cœur. »
Hein, tu vois. Puis là, en plus, il y a des gens qui se disaient à ce moment-là, ouais, mais là, quand ça va rouvrir, moi, je suis vacciné à AstraZeneca, puis les États-Unis veulent pas le reconnaître. Non, non, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, les États-Unis, qui ont reconnu qu'AstraZeneca sera reconnu comme un vaccin valide. Je pense aussi à ceux qui ont des jeunes enfants comme moi qui peuvent techniquement voyager, qui pourront en plus le faire par la voie terrestre, mais s'ils ont des enfants non vaccinés, ben, ils pourront pas aller à l'école pendant 2 semaines en revenant. Donc ça met fin aux espoirs d'un voyage dans le sud, par exemple. Ben là, Pfizer a demandé l'autorisation pour pouvoir procéder à la vaccination des 5 à 11 ans. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Hier, on a appris l'existence du molnupiravir, ce que j'avais jamais entendu de ma vie. Ça, c'est le médicament que Merck propose de faire homologuer. Un médicament qui viendrait couper de 50% les risques d'hospitalisation lorsque on est testé positif à la COVID-19. Donc, bref, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et plus près de chez nous, je trouve ça intéressant parce que certains vont dire, ah ouais, il me semble que c'est technique, c'est politique, puis ça rejoint pas les gens, mais des fois, faut regarder les détails. François Legault a confirmé la semaine dernière qu'il prorogeait la session parlementaire actuelle et qu'il va avoir une nouvelle session qui va s'amorcer la semaine prochaine avec un discours d'ouverture le 19 octobre. Bon, c'est tel que tel, ça change rien dans la vie des gens, sauf que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de lire dans le communiqué qui venait expliquer pourquoi le gouvernement prorogeait la session. Mais François Legault disait essentiellement, le pire est derrière nous, il est temps de penser à l'après-pandémie et à la relance du Québec. Donc moi, quand j'entends le gouvernement dire, on va parler de développement économique, on va parler de comment on va améliorer le système de santé, etc., etc., je me dis, ben ceux qui pensaient que ce serait jamais derrière nous, qu'il y a des mesures qui seraient toujours là pour rester, puis qu'on perdrait nos libertés de façon à long terme, ben moi je me rends compte que ça va mieux. C'est pas parfait encore, là. C'est pas parfait, mais tu sais, il y a des spectacles salles pleines, les bonnes nouvelles que je viens de vous dire. Bref, je pense que des fois, faut prendre aussi juste un instant pour se dire que ça va pas mal mieux que ça allait.
Je te dirais, Joe, moi, que les jours où je file pas, je me rappelle le couvre-feu. Puis je me dis, hey, on a vécu ça. Tu sais, on semble l'avoir oublié, mais on a vécu ça, là. Un couvre-feu.
C'est fou, hein?
Je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Tu sais, quand on me parlait de couvre-feu, moi, je me disais, hey, Deuxième Guerre mondiale, power, là, tu sais. Mais je l'ai vécu. C'est hallucinant. Fait que quand ça va pas, je me dis, ouais, j'ai déjà eu un couvre-feu.
Fait que tu fais ça hier, il paraît que tu t'endurais pas hier.
Absolument, j'ai fait ça hier.
Hier,
j'étais à la recherche de 2x4, Joe, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de pénurie dans le bois. Parce que j'en aurais manqué.
Mais oui, on pourra dire qu'on a vécu ça. Tu sais, moi, j'ai commencé à planifier les parties de Noël. Là. Puis là, tu sais, de me dire que l'an passé, ouf, on pouvait pas planifier. Puis finalement, ben il y en a pas eu de party de Noël. Ben, tu sais, cette année, moi, j'ai bon espoir. Puis on en parlait, Jérôme puis moi, dans notre émission. Jérôme me disait, tu penses-tu vraiment qu'on va avoir des vrais parties de Noël cette année? Ben, moi, je pense pas qu'on en aurait pas, là.
Ben, je pense que
je
oui.
Je pense qu'on est rendu là. Ah,
oh, j'ai des petites nouvelles pour toi. Même s'il y en aura pas, il va en avoir pareil.
Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je pense que c'est déjà arrivé que le gouvernement s'est dit ça dans la gestion de la pandémie, que tant qu'à ce que tout le monde fasse pas ce que le gouvernement a dit, sont aussi bien d'alléger. Mais d'ailleurs, ça m'amène à une petite parenthèse sur le port du masque obligatoire dans les salles pleines maintenant. Là. Bon, parce que là, mais tu vois, ça, je trouve ça ridicule, parce que quand ils ont annoncé ça, il y a quoi, ça fait deux semaines, à peu près deux, trois semaines, qu'à partir du 8 octobre, c'était pour être des salles pleines capacité avec sièges, avec des spectateurs assis avec des sièges assignés, mais port du masque obligatoire. Moi, on m'avait bien expliqué en coulisses que c'était la condition fixée par la santé publique. Pour convaincre la santé publique d'autoriser les salles pleines, la santé publique avait dit « OK, mais ça va prendre le port du masque ». Par contre, j'avais des sources qui me disaient « Mais non, c'est très bien quand le Centre Bell va être plein ou le Centre Vidéotron ou chez vous, quand il va avoir une game du Saguenay, que la police ira pas voir si chaque personne a son masque ». Mais ça fait en sorte que finalement, le règlement est pas respecté par presque une majorité, en tout cas un bon nombre de personnes. Puis là, ceux qui se disent « Ouais, mais moi, quand il y a une règle, j'essaie de les respecter, tu caves ou c'est les autres qui sont caves? » Tu sais, tant qu'à faire, faites-la sauter, la règle. Si personne n'est pour la suivre, ben de
là,
toute façon.
Là. Ben là, moi qu'on s'offusque de voir deux, trois madames danser à Ricky Martin, ça me perturbe au plus haut point. « Hey, tu penses vraiment que le monde va rester assis? Voyons donc. »
Ben c'est ça, mais tu sais, à la limite, garder le port du masque lors des déplacements à l'intérieur de ces édifices-là, je pense que c'est quelque chose qui était acquis, qui était largement respecté, là, tu sais, de façon générale. Mais une fois que t'es assis, tu sais, tu vois, moi, j'étais bien content que mon gars commence sa saison de hockey en fin de semaine passée. Sauf que là, la différence, c'est que depuis le début des camps d'entraînement, une fois qu'on était assis, on avait le droit de retirer le masque.
Non, on a plus le
droit.
Mais
là, vu que c'est rendu pleine capacité, ben, il n'y a pas plus de monde qu'il y avait quand même, là, pour aller voir du Atome 2B, là. Tu sais, c'est le même nombre de personnes qu'il y avait 10 jours avant, mais là, il fallait garder notre masque.
Ouais.
Bref, ça, c'est des petites incohérences, mais je veux pas m'acharner sur le négatif. Je réitère mon message. Je reste que de façon générale, ça va de mieux en mieux.
Absolument. Mais, ça va de moins en moins bien dans le système de santé, par contre. Et aujourd'hui, on va parler de ce fameux plan de contingence. J'ai hâte de voir ce qu'on va annoncer.
J'ai bien hâte. 11h ce matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui va présenter son plan de contingence. J'ai hâte de voir c'est quoi le plan de contingence, parce que moi, avec des nombreux échos que j'ai dans le système de santé, il y a bien des gens qui nous disent qu'ils ont l'impression d'avoir assisté à une game de chicken au cours des dernières semaines. Tu sais, une game de chicken où tu penses que la personne qui est en avant de toi va céder avant toi, donc tu cèdes pas, puis finalement, ben ça, tu peux, il y a risque de collision frontale si ni un ni l'autre cède. Ben c'est un peu ça qui semble être arrivé, c'est-à-dire que le gouvernement s'est dit les antivax vont finir par aller se faire vacciner devant la perspective de perdre du salaire, de pas avoir de chômage, de pas avoir d'autres alternatives, etc., etc. Et de l'autre côté, les antivax se disaient, ben voyons, le gouvernement ne peut pas se permettre de perdre des milliers d'employés du jour au lendemain à partir du 15 octobre. Donc, il y a des gens qui ont dit, on n'ira pas se faire vacciner. Or, là, la réalité, c'est qu'on en a des milliers. Là. Et ce sera pas juste des infirmières, il y aura aussi des préposés aux bénéficiaires, il y aura des employés de d'autres secteurs qui seront pas en emploi. Et qu'est-ce que le gouvernement va faire? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la ligne dure va être maintenue sur le 15 octobre. Il n'y aura pas de report, puis la volonté, elle est là. Je pense qu'on l'a tous bien saisi parce qu'ils l'ont répété fois après fois. On semblait démontrer un peu d'ouverture sur la deuxième dose. Donc, des gens qui auraient une première dose et qui sont en mesure de démontrer qu'ils vont se faire vacciner dans un délai raisonnable. Par exemple, de démontrer qu'ils ont une date pour un rendez-vous pour la deuxième dose.
Ce qui me semble logique.
Peut-être qu'il pourrait y avoir des allègements.
Ce qui me semble logique, en passant, du moment où la personne a fait l'effort et elle a son rendez-vous, voulez-vous bien y sacrer patience?
Oui, sacrée patience. En même temps, c'était à elle de mettre ses affaires en ordre. C'est pas comme si elle avait pas eu l'occasion d'aller chercher ses deux doses.
Mais
c'est ça. Si la personne dit, regardez, j'ai ma première dose, j'ai rendez-vous pour ma deuxième dose, moi, j'ai pas de problème. Par contre, assure-toi d'y aller. Là, parce que tu vas pas pour ta deuxième dose, à la maison. Mais je pense que ça, ce serait une façon d'améliorer les choses. Une question que moi j'aurais pour le ministre Dubé, j'espère que quelqu'un va lui poser aujourd'hui. Il dit que son plan de contingence, c'est pour éviter les bris de service. Est-ce qu'on est capable de nous garantir qu'il n'y a pas déjà des bris de service qui découlent de la non-vaccination? Parce que encore là, des échos que j'ai du milieu de la santé, je pense qu'on s'en était parlé dans les dernières semaines, c'est que des burn-out, des billets de médecins soudainement qui sont obtenus par des collègues de travail que tous connaissaient leur position sur le vaccin, que soudainement s'en vont à la maison. Ça a été, sans dire, écoute, j'ai pas envie de parler d'un phénomène, mais c'est une réalité à un point tel que la sous-ministre de la Santé est obligée d'envoyer un billet, une note à l'Association des médecins omnipraticiens pour leur dire, faites attention, là, assurez-vous de respecter les standards pour donner des congés de maladie à des collègues du système de santé, parce qu'il y en a peut-être qui pourraient abuser. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être déjà des endroits où, par exemple, il y a des salles d'op qui sont en arrêt parce que il y a des infirmières, des infirmiers qui ne sont plus là, puis là, malheureusement, ils sont plus capables de faire rouler la chope. Donc, c'est bien beau de nous parler d'un plan de contingence à partir du 15 octobre, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà certaines lacunes dans le système? Ouais. Autre question que j'ai, les gars, c'est l'exactitude des chiffres qu'on nous donne. Là, quand on nous parle de 4 000 par-ci, de 7 000 par-là, de 20 000, là, tout dépendamment des paramètres qu'on prend, jusqu'à quel point on est certain que ces chiffres-là sont rigoureusement exacts? Parce que, souvenons-nous, je nous ramène en arrière, il y a quelques années de ça, lorsque Martin Coitu était président du Conseil du Trésor, il s'était fait poser à un moment donné la question, combien il y a de gens qui travaillent pour le gouvernement, de façon générale, la fonction publique, le parapublic, les sociétés d'État, etc. Et Martin Coitu avait dit,
c'est pas,
j'en ai aucune idée. Il savait pas. Il demandait à ses fonctionnaires, hey, gang, on a combien dans le poignet? Puis il disait, on ne sait pas. Ça avait pris de mémoire, pardon, ça avait pris des mois avant qu'on réussisse à avoir cette réponse-là. Donc, j'applique la même logique lorsque le ministère de la Santé demande à ces fameux CIS et CIUS de répertorier le nombre de gens non vaccinés. Jusqu'à quel point on peut se fier sur ces chiffres-là? Donc, je vais vous parler de mon expérience personnelle.
Donc, selon toi, ça serait plus?
Moi, je pense que c'est moins. Martin.
Ah oui? Moins que genre des doubles erreurs?
J'oserais croire que ce soit moins, mais en même temps, je suis peut-être biaisé par l'anecdote qu'on a vécue nous-mêmes ici à la maison avec ma blonde qui est médecin spécialiste. La semaine passée, elle reçoit un avis de sa fédération lui disant, là, vous savez, si le 15 octobre, vous avez pas donné la preuve de votre double vaccination, vous allez être suspendu sans solde, pas de télétravail, pas de télémédecine, etc. Et là, ma conjointe leur dit, ça, c'est un courriel générique que vous envoyez à tout le monde? Puis elle se fait répondre, non, vous le recevez parce que vous avez pas fourni votre preuve. Et là, ma blonde a dit, ben voyons, tu sais, j'ai été dans les premières à me faire vacciner, première dose, deuxième dose. Dès la journée où vous avez dit, il va falloir fournir la preuve, je vous ai envoyé ça. Ils ont dit, ah! Ben, c'est bizarre, on n'a pas ça dans nos dossiers. Fait qu'elle est obligée de le renvoyer. Donc, il y en a combien des doublons comme ça, là, comme ma blonde, mm-hmm. qui était dans le 3% des supposément médecins non vaccinés, alors qu'elle l'était. J'ose espérer que peut-être ce sera moins pire que ce qu'on anticipe. Mais une chose est certaine, faudra pas se surprendre quand même d'avoir un certain bris de service. Mais je sais pas comment vous voyez ça, mais moi je suis prêt à l'accepter pour un certain temps. Ouais, c'est un moment donné, une question de principe là.
Je suis d'accord avec toi, Jonathan, mais tu sais, on dit ça jusqu'à temps qu'on en ait besoin. Hein. Si quelqu'un se fait diagnostiquer d'un cancer puis qu'il a besoin d'une chirurgie là, imagines-tu, t'as déjà le stress de la maladie sans avoir besoin d'un stress supplémentaire d'une guerre entre des syndicats puis un gouvernement, puis c'est ta vie qui est en jeu là.
Je sais. C'est un choix qui est déchirant puis qu'on peut pas prendre à la légère. Mais tu mentionnes les syndicats. Écoute, tu m'ouvres la porte, je voulais pas faire exprès pour une énième semaine d'affilée de casser du sucre sur le dos
mais t'auras raison, dans le système de santé. T'auras raison, parce que sais-tu quoi? Moi, là, si j'étais dans le 97% de personnes qui payent des cotisations puis qui est pour la vaccination, puis que mes cotisations servaient à défendre en cours, un 3% de récalcitrant qui veut rien comprendre, je serais en maudit. Après
c'est
ma
centrale. C'est fou, puis ce matin, je faisais le tour des journaux, puis je voyais que ça fait consensus pas mal auprès de plusieurs chroniqueurs, là. Patrick Lagacé là-dessus, Richard Martineau, Mario Dumont, José Legault en parle aussi. Tu sais, moi, dans les dernières semaines, j'ai décrit l'attitude de la FIC, entre autres, qui a pas joué un rôle de facilitateur pour convaincre ses membres de revenir, de répondre présent suite à l'appel à la proposition du gouvernement avec la bonification puis les engagements à revoir le temps supplémentaire obligatoire et tout ça. Je vous l'ai dit fois après fois à quel point je trouve que c'est une attitude qui est déplorable. L'espèce de posture traditionnelle que le syndicat ne peut pas travailler avec le gouvernement, qui doit tout dénoncer. Mais là, ça va plus loin. On peut même l'appliquer au manque de sensibilité des syndicats lorsqu'est venu le temps de faire un appel à la vaccination massive. On les a jamais entendus dire allez vous faire vacciner si c'est impératif, ou de les voir comme on a vu à d'autres endroits ou dans d'autres. Je pense que c'est entre autres le syndicat de la fonction publique canadienne qui a dit ben nous on est d'accord là avec ce que le gouvernement a annoncé parce que on pense que nos gens doivent aller se faire vacciner, puis oui il y aura suspension s'ils sont pas vaccinés, mais bref jamais on les a entendus dire allez vous faire vacciner, sans quoi on pourra pas vous défendre, on n'aura pas de motif de vous défendre. Non seulement ils l'ont pas fait, mais en plus ils viennent nous dire qu'ils vont aller les défendre, qu'ils vont utiliser les cotisations des membres qui dans la grande majorité, quasi totalité, se sont fait vacciner. Ils vont utiliser leurs cotisations pour aller dépenser de l'argent pour les défendre. Et comme disait Mario Dumont dans sa chronique ce matin, jusqu'à quel point ce message-là de dire « inquiétez-vous pas, on va vous défendre si vous êtes suspendu », jusqu'à quel point ça a contribué à faire en sorte qu'il y a des gens qui ont dit « bon, ben parfait, moi restez chez nous, j'irai pas me faire vacciner, mon syndicat va me défendre, mon syndicat me dit on laissera jamais faire ça, on va vous défendre bec et ongles. Donc pourquoi j'irai me faire vacciner, ma job, je vais l'avoir, c'est ce que mon syndicat me dit. »
C'est incroyable, c'est incroyable, effectivement. Puis tu sais, en même temps, là, je veux dire, ça remet beaucoup de choses en question. Moi, si j'étais, tu sais, là, mais il y a même des gens qui me parlaient de remettre en question la formule RAND ce matin, qui disaient, hey, pourquoi moi, je suis obligé de toujours payer pour une minorité? C'est pas supposé être la majorité, les syndicats. Pourtant, je suis pogné à payer mes cotisations. Puis c'est de l'argent qui sert à défendre une cause à laquelle je ne crois pas, celle des anti-vaccins. Ça peut pas marcher.
Tu sais que mes premiers pas en politique ont tourné autour de la formule RAND.
Ah oui.
Dominique, donc, oui, lorsque j'étais avec les jeunes libéraux responsables des communications à la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, c'est en 2003, si je me trompe pas, Jean Charest venait juste d'être élu pour son premier mandat, mm-hmm. dans le cadre du Congrès jeune, qui était un événement là, politique très très couru, parce que ça lançait le retour de la politique là, après les vacances estivales, on avait proposé l'abolition de la formule RAND. Et à l'époque, Jean Charest avait été obligé de rabrouer mon président de commission jeunesse. Mais écoute, on avait été partout dans les journaux, on avait fait toutes les caricatures. Ce qui veut dire souvent que tu réussis à marquer l'actualité, là, tu sais, quand t'es dans les caricatures. L'actualité avait fait un numéro spécial, Télé-Québec avait fait des émissions spéciales. On avait relancé ce débat-là sur la pertinence ou non de garder la formule RAND pour les gens qui sont moins familiers. Ça, c'est les cotisations obligatoires. C'est ce qui fait en sorte que ouais. si t'arrives à un endroit, dans une shop, dans une compagnie où il y a une convention collective, c'est pas un opting in. On doit pas te convaincre d'adhérer à défaut de quoi tu peux ne pas payer ta cotisation, puis le syndicat ne défendra pas. Tu es obligé de payer, ouais. ce qui est une espèce de non-sens complètement
ridicule. C'est sur la base que tu profites de tous les avantages d'une convention négociée par le syndicat.
Ouais, ben enlevez-les.
C'est ça.
Demain matin, je pense, c'est parce que le problème, c'est que certains pourraient débattre du fait que ah oui, mais tu sais pourquoi moi j'ai aucun avantage. Bon, mais si c'est ça le problème là, convenons au Québec que si tu ne veux pas payer ta cotisation syndicale, ton syndicat sera pas là pour te défendre. That's it. C'est tout, parce que je pense qu'aujourd'hui au Québec, on est rendu ailleurs, parce que cette dynamique-là a fait en sorte que les syndicats ne sont aucunement à l'écoute de leurs membres. Lorsque moi, par exemple, dans les dernières années, j'ai fessé autant comme autant sur Sylvain Mallette de la Fédération de la FAE, la Fédération autonome
de l'enseignement.
Le nombre de fois où j'ai des enseignants qui me disent mais on sait pas, ils prennent où leur position, c'est qui leur parle, c'est pas à nous qui parle, parce que quand nous on essaie de faire valoir tel ou tel point, on se fait éteindre, on se fait dire de se la fermer. C'est devenu des espèces de petites cliques syndicales qui travaillent pour eux, qui travaillent pour sauver leur poste, qui travaillent pour leur bien, non pour le bien de leurs membres. Ben c'est ça, la formule RAND fait ça. Ils ont pas d'obligation de réussite. Ouais. Ils ont pas d'obligation de réussite parce que les gens vont quand même cotiser. Donc oui, bravo aux auditeurs qui ont suivi ce point-là.
Tu sais, d'autant plus qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, là, les salaires négociés selon des conventions collectives sont en train de prendre le bord partout. Là. Fait que c'est peut-être le temps justement de relancer ce débat-là.
Ben c'est ça. S'il y en a qui disent que les conventions collectives, parce que soyons très très clairs, parce que je sais que je suis souvent très sévère avec les syndicats. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui vient me chercher, mais ça enlève en rien la pertinence que les syndicats ont eu à une certaine époque au Québec. Sauf qu'aujourd'hui, on regarde à tellement d'égards, on a l'impression que l'omniprésence syndicale, le pouvoir démesuré des syndicats au Québec, quand on compare, par exemple, aux autres provinces, vient nous nuire à bien, 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 bien des écarts, ne serait-ce que pour la productivité et tout. Donc, je dis pas que les syndicats n'ont jamais été utiles, je dis pas qu'ils ne le sont pas du tout en ce moment, Mais quand on regarde, par exemple, la question des salaires, en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre, de façon très naturelle, si on veut, organique, les salaires vont augmenter tout court, parce que les employeurs, s'ils veulent aller chercher du monde, n'ont pas le choix d'offrir des salaires compétitifs. Donc, c'est pas tant le propre des syndicats de réussir à fournir des bons salaires à leurs gens, mais bref, par expérience, pour avoir une fois proposé ce débat-là, c'est pas long qu'il y a des gens très, très, très puissants et influents qui se font aller pour dire « non, 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 on garde la formule même ».
Ça a l'air qu'on a quelque chose qu'on n'avait pas avant, ça s'appelle des diplômes. Ça a l'air qu'aujourd'hui, le monde sont capables de se rendre compte que celui qui est à la tête du syndicat, ben, il y a moins de diplômes que lui. C'est un peu...
Ça arrive, ça?
Ça arrive de temps en temps. Hey, merci
paraît
beaucoup.
Que...
Ouais, il paraît que...
On se reparle la semaine prochaine.
On se reparle, effectivement.
Salut.
Bonne journée. C'est... Ouais. Cette relance-là sur le débat syndical qui... Tu sais, oui, les syndicats ont encore leur raison d'être, mais actuellement, là... On voit toute l'incohérence que ça peut créer avec le monde de la santé. Jonathan Trudeau, donc chroniqueur politique, annonce à 11h aujourd'hui du ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, sur la contingence dans le monde de la santé. Qu'est-ce qu'on va faire avec les employés non vaccinés? Réponse à 11h.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick, Saguenay.